Il est 8h. Le journal Corinne Audouin. Bonjour Corinne.
Bonjour. Gomme, cartable et autres crayons, l'allocation de rentrée scolaire est distribuée à partir d'aujourd'hui pour près de 3 millions de familles modestes. C'est le seul moyen de boucler les courses de la rentrée. Vous entendrez le témoignage de Michel. Les chiffres du chômage en très légère baisse, moins 0,1 point au deuxième trimestre selon les chiffres de l'INSEE. Retour à la vie à Ouagadougou après l'attentat sanglant de dimanche soir. Entre fatalisme et peur, les commerces rouvrent aujourd'hui dans la capitale du Burkina Faso. Y a-t-il trop de malades psychiatriques en prison? On estime qu'un quart des détenus devraient plutôt être hospitalisés. On en parle avec votre invité, Pierre.
Adeline Hazan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Elle sera avec nous à 8h20 et vous pourrez l'interroger dans Interactive au 01 45 24 7000 à partir de 9h-20.
Et puis nous terminerons ce journal par le festival incontournable de la fin de l'été, la Route du Rock à Saint-Malo.
France Inter.
1 euro de plus par enfant, de quoi s'acheter un stylo ou une gomme. C'est la toute petite augmentation cette année de l'allocation de rentrée scolaire, dont la distribution commence aujourd'hui, de 364 euros pour un enfant en primaire jusqu'à 397 euros pour un lycéen. C'est un coup de pouce bienvenu pour les familles modestes. Michel a 51 ans, il vit à Auxerre. Il élève seul son fils de 11 ans. Avec 900 euros de revenus par mois, l'allocation est indispensable pour boucler les courses de la rentrée.
J'ai commencé déjà à acheter des fournitures, les plus grosses fournitures, c'est-à-dire le sac à dos, parce que et le sac à dos qui coûte 20 euros, au bout d'un trimestre et demi, vous le changez. J'en suis déjà à 70 euros environ, avant de toucher la prime. Je vais en avoir encore pour bien 200 euros de reste de fournitures environ. Il faut acheter des jeans, des baskets, donc dans le budget. Heureusement qu'on a cette prime-là, parce que moi je suis au RSA. Donc si j'avais pas cette prime-là, je serais dedans, quoi. J'aurais pas pu prendre ce que je voudrais, j'aurais trouvé des matériaux qui sont pas adaptés à ce qu'il fait. Je me serais débrouillé pour avoir une partie des fournitures, mais j'aurais pas pu tout prendre. C'est très important l'éducation. Il faut qu'ils aient tous les mêmes chances, qu'ils aient le même matériel pour travailler et qu'il n'y ait aucune différence à ce niveau-là en tout cas.
Michel au micro de Thierry Boulan de France Bleu Auxerre. Près de 3 millions de foyers devraient toucher l'allocation de rentrée scolaire. La baisse du taux de chômage au deuxième trimestre, minime elle aussi, moins 0,1 point. 9,2% de la population active est actuellement à la recherche d'un emploi. Ce sont les chiffres provisoires de l'INSEE publiés ce matin. L'indicateur retrouve son niveau de début 2012. Sur un an, la baisse est de 0,5 point. Coûteux et inefficace, c'est le diagnostic de la ministre du Travail Muriel Pénicaud sur les contrats aidés. C'était le 9 août dernier à l'Assemblée. De fait, sur le deuxième semestre 2017, le recours à ces emplois subventionnés est en diminution. Et conséquence concrète, la rentrée scolaire sur l'île de la Réunion est reportée. Dans la plupart des communes de l'île, l'école ne reprendra que mardi prochain au lieu de demain, faute d'agents de restauration, d'entretien et de surveillance, jusque-là recrutés par ce système des contrats à aider. Et à terme, Delphine Simon, le gouvernement voudrait en terminer avec ce système.
Ces emplois en partie subventionnés, le précédent gouvernement les a largement utilisés pour faire baisser les chiffres du chômage. Les deux tiers de l'enveloppe prévue pour 2017 ont déjà été dépensés. Une enveloppe insuffisamment budgétée, reconnaît un syndicaliste. Pour financer les 300 000 contrats aidés jusqu'à la fin de l'année, il faudrait donc une rallonge. Pas facile, vu les promesses d'économies tous azimuts du gouvernement. Il va donc falloir réduire la voilure. À Pôle emploi, les employeurs ont déjà été informés de la potion amère. Au total, il y aurait donc un tiers de contrats en moins par rapport à 2016. Seuls les contrats dans l'éducation, les outre-mer, l'urgence sanitaire et sociale seraient préservés. La ministre du Travail l'a expliqué aux députés. Elle juge insuffisante l'efficacité de ces emplois, coûteux pour le budget de l'État. Dans le public, à peine un quart débouche sur un emploi durable. Muriel Pénicaud préfère investir dans la formation. C'est l'objet du plan d'investissement sur les compétences prévu à l'automne. En attendant, Force ouvrière dénonce un choix purement budgétaire, alors que les chiffres du chômage continuent de faire du yo-yo d'un mois sur l'autre.
Budgétaire toujours, le gouvernement réfléchit à une nouvelle taxe de 2 milliards d'euros sur les grandes entreprises. C'est à la une des Échos et du Figaro ce matin. Bercy cherche à compenser la disparition de la taxe à 3% sur les dividendes. Une taxe mise en place par François Hollande en 2012 et retoquée par la justice européenne. Piste envisagée par le gouvernement, augmenter la contribution sociale de solidarité des grandes sociétés pendant 3 ans. Et puis dans notre série sur les finances des partis politiques, on s'intéresse ce matin au parti Les Républicains. Après les législatives, les dotations de l'État sont redistribuées. C'est le jackpot pour La République En Marche, la Bérézina pour le Parti Socialiste. Et entre les deux, il y a donc LR, le parti qui commençait à sortir la tête de l'eau après l'affaire Big Malion, va devoir sacrément se serrer la ceinture. Audrey Morelato.
Après 2 ans d'efforts, la dette est passée de 75 à 55 millions d'euros. Mais c'est pour la suite que ça se complique, puisqu'il faut désormais tenir compte d'une sacrée baisse des dotations de l'État. Avec presque 100 députés de moins et moitié moins de voix qu'il y a 5 ans au premier tour des législatives, ça représente près de 40 millions d'euros de moins sur 5 ans. Daniel Fasquelle, le trésorier du parti, va donc devoir élaborer une nouvelle stratégie.
Pour ce qui est des conséquences financières, écoutez, on fera le point de toute façon d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas urgence puisque le budget est bouclé pour 2017. Nous dégagerons un excédent en 2017. C'est à partir de 2018 où l'échec des législatives va nous priver justement d'excédents que j'avais réussi à dégager systématiquement chaque année. Donc il faut retrouver des marges de manœuvre par une nouvelle politique d'économie, par de nouvelles recettes, puis peut-être simplement en retrouvant l'esprit militant.
Le parti n'envisage pas de plan social, mais la vente du siège, elle, permettrait d'éponger presque toute la dette. Plus de 5000 mètres carrés, rue de Vaugirard, dans le 15e arrondissement de Paris. Une autre solution serait d'en mettre une partie en location. Bref, au milieu de tout ça, une seule bonne nouvelle, mais elle est bien maigre. Le micro-parti de François Fillon va reverser 1 million d'euros aux Républicains. C'est la moitié des dons qu'il avait perçus pour la présidentielle.
Il dément s'être introduit dans la résidence privée où séjournent Emmanuel et Brigitte Macron, qui sont en vacances à Marseille. Le photographe poursuivi par le président de la République pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée s'est exprimé sur RMC. Il dénonce des méthodes d'intimidation destinée, dit-il, à lui faire peur.
Il est 8h07, le journal Corinne Audouin. Corinne, le Burkina Faso toujours sous le choc après l'attentat dimanche soir.
Oui, c'était dans un café-restaurant au cœur de la capitale Ouagadougou. 18 personnes sont mortes tuées dans cette attaque à l'arme lourde attribuée aux djihadistes. L'attentat n'a toujours pas été revendiqué. Les commerces commencent à rouvrir dans la capitale avec un mélange d'angoisse et de fatalisme. Reportage à Ouagadougou de Frédéric Gara de RFI.
Les sapeurs-pompiers de Ouagadougou, les employés du restaurant Istanbul, le personnel municipal, chacun met la main à la pâte pour faire disparaître les traces de l'attentat de dimanche soir. De l'autre côté de l'avenue, les curieux observent la scène comme ce vendeur de recharge téléphonique.
Bon, en fait, on ne peut pas ne pas venir parce que ça nous concerne. Étant donné que nous tous nous étions dans le même coin, avec ce sentiment vraiment mélancolique, là, on ne peut que quand même venir exprimer notre compassion.
William Atekossi est le gérant du café La Véranda, à quelques pas du restaurant Istanbul. Et il songe à l'avenir et à sécuriser encore plus son propre restaurant.
Bon, il va falloir qu'on se mobilise entre nous, la population, quoi, pour que s'il y a quelque chose de suspect, pour qu'on signale rapidement la police ou bien la gendarmerie.
Ça veut dire qu'à Ouagadougou, chaque restaurant, chaque hôtel va avoir des corps habillés devant chez lui ?
Des corps habillés, vraiment. Voilà.
Des corps habillés au point névralgique de la ville de Ouagadougou, en tout cas pour cet employé d'une banque de l'avenue Kwame Nkrumah, il ne faut pas céder à la psychose et continuer à vivre.
On ne doit pas vivre avec la peur. En fait, c'est ce qu'ils recherchent, mais on ne doit pas leur donner cette opportunité. Ouagadougou continue à vivre normalement.
Frédéric Gara, Ouagadougou, RFI pour France Inter.
Et petite précision, les corps habillés en Afrique, cela signifie les personnels, les personnes qui portent un uniforme, comme les militaires et les policiers. Aux États-Unis, Donald Trump est de plus en plus isolé après ses propos hier relativisant les violences des groupes d'extrême droite face aux défections en série de plusieurs chefs d'entreprise. Le président des États-Unis a annoncé la dissolution de 2 commissions consultatives sur sa politique économique.
Corinne Audouin, la prison, refuge pour les malades psychiatriques. 1/4 des détenus en France souffriraient de troubles mentaux.
Oui, c'est une estimation. 17 000 détenus devraient être à l'hôpital plutôt qu'en prison. Le problème n'est pas nouveau. Fin juillet, un rapport de la contrôleure générale des prisons, Adeline Hazan, pointait du doigt la maison d'arrêt de Château-Thierry, où beaucoup de ces détenus atteints de troubles mentaux sont regroupés. Un rapport qui dénonce des conditions indignes. Mais la question de la santé mentale en milieu carcéral concerne toutes les prisons de France. France. Troubles psychotiques, schizophrénie, de plus en plus de détenus souffrent de maladies psychiatriques. Hugo Charpentier.
Depuis 2004, aucune étude précise sur la santé des détenus n'a été réalisée en France. Mais sur le terrain, les observateurs s'inquiètent, à l'image de François Besse, coordinateur de l'Observatoire international des prisons et pour qui le constat est sans appel.
Plus d'un gros quart des personnes détenues présentent des troubles et des maladies psychiatriques graves. Ce gros quart de personnes détenues relèverait à certains moments, en tout cas, de l'hospitalisation et non pas de la détention.
Un quart, cela représente environ 17 000 détenus, un chiffre qui augmente un peu plus chaque année.
Le nombre de personnes déclarées responsables a été divisé par 10 en 20 ans, d'où l'engorgement des prisons avec des personnes qui sont malades psy.
Pour Cyril Canetti, psychiatre qui travaille depuis plus de 20 ans en milieu carcéral, ces détenus ont désormais affaire à une justice décomplexée par la présence de médecins au sein des prisons.
L'organisation des soins en prison a fait en sorte qu'on se dise, on peut les y mettre puisqu'il y a des soignants. Dans ma carrière, j'ai plusieurs fois des magistrats qui m'ont dit, puisque vous êtes là, on va le garder plus longtemps en prison. Ce qui est une hérésie, parce que jamais une prison ne peut être un lieu de soins et jamais les murs de la prison ne peuvent se substituer aux murs de l'hôpital.
Prison ou hôpital psychiatrique, la différence est grande pour certains détenus, elle l'est aussi pour l'État. Un prisonnier coûte environ 100 euros par jour, c'est 4 à 5 fois moins que dans un établissement spécialisé.
Et la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, sera l'invitée de France Inter à 8h20. Dossier sur ce sujet à retrouver sur franceinter.fr. Le conducteur de la voiture qui a tué une adolescente et blessé grièvement 5 personnes lundi soir en Seine-et-Marne, a été mis en examen et écroué. Le psychiatre qui l'a examiné en garde à vue a estimé qu'il ne présentait pas, à ce stade, d'abolition de son discernement au moment des faits. Le mois d'août, c'est la saison des déménagements. L'association Carton Plein 75 vit sa période la plus chargée de l'année. Ces déménagements, elle les fait à la force des mollets à vélo électrique dans Paris, en proche banlieue. Elle emploie une trentaine de personnes en réinsertion. Elle espère se développer après des débuts difficiles. Reportage de Mathilde Dehimi.
Avec son cutter, Grégoire, polonais, arrache vite le scotch des cartons.
Technique spéciale, le couteau, avec les ongles. Voilà, clac.
Grégoire travaille 6 heures par semaine et cherche encore un logement. Il fait partie de la trentaine de personnes en réinsertion accompagnées par Mathilde.
Des fois, il y a des problèmes de langue, donc on va les orienter vers des cours de français. Des problématiques de santé ou d'addiction, d'hébergement, faire les démarches administratives et puis après l'emploi.
Les beaux cartons récupérés dans des hôpitaux ou entreprises sont vendus tels quels, moins chers que les prix du marché. Les plus endommagés sont aussi traités, explique Théo.
On a une machine qui s'appelle une matelasseuse qui permet en fait d'onduler le carton. On appelle ça du carton bulle, le même usage que le papier bulle mais en carton. On produit également du confetti de carton qui vont servir à faire de la matière sèche pour faire du compost, ou alors on va le vendre à une champignonnière qui arrive à faire pousser des pleurotes en fait avec une sorte de mélange de marc de café, de confetti de carton. On leur en vend à peu près à 500 kilos par semaine.
Carton Plein 75 assure aussi les déménagements en vélo électrique dans Paris et c'est souvent le moment que Brahim préfère.
Le sport en fait, c'est le sport pour nous. Des fois les machines, des fois les cartons. Ouais, c'est lourd un peu, mais bien aussi.
L'équipe prépare pour la fin de la semaine son plus gros déménagement en 5 ans d'existence. Un appartement de 110 mètres carrés, un piano, une centaine de cartons. Heureusement, le nouveau logement est à seulement 300 mètres de l'ancien.
Pour tout savoir sur cette association, il y a un site internet cartonplein.org. C'est un événement sportif et médiatique. Pour la première fois à la télévision, ce soir en prime time, un match de rugby féminin. Troisième match de poule de la Coupe du Monde pour les Bleus. La France affronte l'Irlande à Dublin pour une place en demi-finale. Et le rugby féminin a le vent en poupe. 17 000 filles sont licenciées en France sur plus de 400 000 en tout. Reportage en crampons de Martin Delacoux pendant l'entraînement d'un club parisien du côté de Pantin.
Allez, on s'accroche jusqu'au bout, les filles et les garçons.
C'est la tradition ici, le premier entraînement se fait garçon-fille mélangé. Cheveux courts et sourire aux lèvres, Cécile entraîne d'habitude les filles. Ça fait un an qu'elle est au SCUF Port, un club basé dans le quartier latin de Paris.
Les filles élèvent leur niveau et puis les garçons des fois sont surpris par les qualités d'appui et d'intelligence de jeu des filles. Donc ça fait progresser tout le monde.
Pour cette reprise, les entraîneurs ont concocté un programme très physique, pompes, abdos et plus original. Une tentative de course en tractant un coéquipier.
Allez, allez, jeune, accélère, accélère, accélère.
Avec le match de ce soir, la récupération ne sera pas optimale. Elle se fera dans un bar, mais pour une fois, ce sera pour voir l'équipe de France féminine tout un symbole pour Ariane.
Pour le rugby féminin, c'est génial. C'est diffusé à la télé, il n'y a plus besoin de chercher un site inconnu pour essayer de voir le match.
Le niveau augmente, le jeu est de plus en plus virevoltant et l'intérêt suit, notamment chez les garçons. Mathieu est secrétaire du club et capitaine de l'équipe. Il sera dans un bar avec le reste de son club, l'occasion de voir du beau jeu.
C'est très technique, les Françaises sont très structurées et puis en plus elles ont bien progressé dans l'alternance du jeu, donc j'espère qu'elles vont y arriver.
Y arriver, ce serait faire mieux que les demi-finales. L'équipe de France n'a jamais réussi à passer l'obstacle.
Et Irlande-France, donc, en Coupe du Monde de rugby féminin, c'est ce soir à 20h45 sur France 2. Et puis on termine en musique. Depuis plus de 25 ans, c'est le festival incontournable de la fin de l'été. La route du rock commence ce soir à Saint-Malo avec son mélange savant de valeurs sûres et de découvertes pointues. Mathieu Culeron.
Véritable mec de la musique indépendante, la route du rock n'a jamais dévié de sa trajectoire artistique. Un festival qui n'a pas non plus la folie des grandeurs. François Fleuret est le directeur de la route du rock.
On est, comme on dit souvent, le plus petit des grands festivals. Enfin, il y a des gens qui nous appellent comme ça. En fait, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est suffisamment souple pour digérer une mauvaise année comme l'année dernière. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour la route du rock parce qu'on a une niche artistique qui est assez pointue, qui est un projet vraiment très clair. Et c'est pas un énième festival où on peut retrouver un peu tout ce qui tourne l'été. Donc la concurrence, elle est plutôt sur la disponibilité des artistes qui seraient à l'étranger que sur les événements français, qui sont la plupart quand même plus généralistes, entre guillemets, que nous.
La route du rock, c'est toujours l'occasion de revoir des stars des années 80-90. Ce sera le cas avec Pete Jarvey ou encore The Jesus and Mary Chain. Mais les découvertes sont également nombreuses, avec cette année un vrai coup de cœur pour le programmateur Alban Coutou, le groupe Idols.
Entre punk et post-punk, vraiment une énergie phénoménale, mais aussi des grandes chansons. C'est vrai qu'ils arrivent à allier les deux, c'est-à-dire que c'est ce côté très brut et direct du punk, mais avec une qualité d'écriture qui est assez rare.
La route du rock au Fort Saint-Père, près de Saint-Malo, 3 jours de musique exigeante, organisée par des passionnés.
Entre punk et post-punk, un petit peu comme votre coiffure, Pierre Veil.
Ah bon, d'accord. La route du rock. Cas, mais PJ Harvey sur scène, c'est bien. Hein. Il y a
j'étais
de
sûr. Ah, voilà. J'étais sûr que vous étiez
absolument
fan.
Absolument, elle est très grande et puis oui, elle donne beaucoup. Voilà.
Du 17 au 20 août à Saint-Malo, la route du rock.
C'était le journal de Corinne Audouin.